Alors, voilà, Dominique, je ne sais pas si je peux te
Vas-y,
présenter.
vas-y, vas-y.
Je sais que tu es. Bon, tu. Bon, non, présente-toi toi-même, c'est
Ah
mieux. Fais comme ça, parce que je sais que tu travailles beaucoup au niveau de la francophonie,
bon?
donc la littérature, pas uniquement en France, en Europe, mais beaucoup en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne. Et j'ai compris ce matin que la plupart d'entre nous, donc on a fait quelques. Moi j'ai fait quelques stations de métro, d'autres sont venus de Nancy ou ailleurs. Dominique est venu de la Mayotte. Arrivé ce matin. Donc c'est pour dire. Donc, alors si tu peux te présenter un petit peu avant de.
À l'université de Metz en Lorraine en littérature générale et comparée, donc ça veut dire je donne des cours de littérature entre guillemets normale et sur le plan des recherches j'ai fait une thèse sur la littérature à Madagascar qui est le pays de mon mari, mais c'est moi qui travaille, c'est pas mon mari. Et donc je travaille sur les littératures de l'Algérie, de l'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien. Travailler sur, ça veut dire analyser des textes et produire des analyses de textes, mais j'ai aussi un volet qui est un volet de recherche et de valorisation des écrivains, donc un travail d'édition des textes, édition pour valoriser l'émergence de ces écrivains vivants, ou bien de fabriquer des volumes d'œuvres de gens déjà morts, mais qui n'ont pas été très connus. Donc un travail d'intermédiaire entre les espaces du Sud et les espaces du Nord, à la fois donc de produire des textes et produire de la critique sur ces textes. J'appartiens aussi à Metz. Nous avons un centre de recherche qui est mon laboratoire, et Metz est spécialisé, le département de lettres, en littérature et spiritualité. Donc j'en reparlerai après. C'est un grand privilège que j'ai, que le Seigneur m'a mis là. C'est vraiment une grande récompense. Et je vous raconterai un peu tout ce qu'on fait en littérature et spiritualité. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de chercheurs. Je réponds un peu à l'introduction. Beaucoup de chercheurs en sciences humaines et particulièrement en littérature qui travaillent sur la Bible. Mais pas du tout dans un espace confessant et pas du tout en relation avec des églises. Et là, je vous le dis parce que vous êtes dans l'espace des églises, dans l'espace universitaire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur la Bible. Ça, c'était vraiment. Alors, comment on se positionne? Bon, ça sera ma troisième partie, donc je ne dis pas trop de choses avant. Sur le pourquoi je suis ici, parce que j'ai été, pendant toutes mes études, j'étais dans le GBU, avec beaucoup de joie, j'en ai retiré beaucoup de choses qui me servent jusqu'à maintenant. Et que après, j'étais dans le conseil des amis pendant très longtemps, mais puis maintenant, je ne fais plus rien, sauf de temps en temps des apparitions comme ça, parce que justement, je circule beaucoup. Voilà. Donc, je voudrais introduire, si je perds. 3 minutes, par un verset qui me semble qui est le point de départ de ma réflexion, où Paul dit aux Romains, chapitre 5, verset 2, ce qui nous réjouit, c'est l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, et non pas au jugement que nous aurions mérité. Bien entendu, nous n'avons pour toute preuve de cette perspective heureuse, hein, donc il y a d'abord perspective heureuse, qu'est-ce qu'on a comme preuve, comme trace? Et Paul répond, on a seulement l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc là, Claude l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est ce Saint-Esprit qui met en nous cette certitude, cette assurance qui nous permet de dire oui, je suis heureux maintenant parce que j'aurai part prochainement à cette gloire de Dieu. Autrement dit, une promesse en laquelle il faut avoir confiance. Et donc, à partir de cette démonstration, c'est toujours une démonstrative, surtout l'Épître aux Romains, l'espérance chrétienne est le produit direct de la foi dans l'œuvre de Jésus donnée en sacrifice pour que nous soyons soustraits au jugement. C'est ça qui nous fait plaisir, qui nous réjouit. Ouf, j'ai pas peur du jugement. Ouf, j'ai pas peur de la mort. Et je me réjouis dès maintenant de ce que Jésus a fait pour moi et fera encore à l'heure de ce jugement. Cette espérance est aussi prodigieuse qu'intellectuellement incompréhensible. Et ça, c'est aussi une étape d'avoir assez d'humilité pour dire « cette espérance, je ne la comprends pas ». Qui comprend la gloire de Dieu? Qui peut envisager d'y avoir part? Quand est-ce que ça va se produire? Comment? En tout cas, si nous n'y sommes pas encore, cet horizon dans lequel je crois et qui me réjouit dès maintenant dépasse les catégories qui nous enferment aujourd'hui, ces catégories qui continuent à peser sur nous. Cette logique fondée sur l'œuvre de Jésus-Christ s'oppose frontalement à d'autres logiques partagées par la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous produisons, hein, sur le plan, que ce soit universitaire ou autre chose, la société nous donne des normes de pensée. Par exemple, celle de l'analyse raisonnée. Cette gloire à venir est au-delà de la raison. Par d'autres moyens de raisonner, de la société, c'est de projeter à partir des données enregistrées. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc on fait un début de courbe et puis on prolonge la courbe. Donc l'espérance, c'est le bout de la courbe, mais c'est en fonction du début de la courbe. Y compris, j'ai lu il n'y a pas longtemps dans Le Point, des projections sur l'augmentation ou la diminution des chrétiens dans le monde, avec des courbes. Et les premiers qui vont arriver dans 30 ans, ce sont les Chinois. Donc on fait des courbes, ça travaille tout le monde. On espère quoi? Eh bien, c'est ce qu'on calcule soi-même. La poursuite inexorable des processus enclenchés, ou au contraire, l'irruption, mais c'est toujours de catastrophe. La littérature apocalyptique et post-apocalyptique est la plus florissante en ce moment. J'en viens maintenant à la littérature. J'entendrai par littérature tout acte de création individuelle, esthétique et langagière. Donc je vais éliminer tout ce qui est petit roman pour s'amuser. Tout acte de création individuelle, esthétique et langagière qui est produit par un auteur, et cet auteur y inscrit fatalement, que ce soit, même si ce n'est pas un essai philosophique ou théologique, dans toute œuvre langagière de création, l'auteur s'implique et met dans ce texte, ouvertement mais surtout en filigrane, son espérance ou son absence d'espérance. Autrement dit, sa vision des choses présentes et des choses à venir. Et c'est ça, c'est tout le travail, c'est tout l'aspect passionnant du travail de décryptage de la critique littéraire, c'est de trouver ces fondements qui sont cachés à l'intérieur des textes. Je vous propose donc de réfléchir rapidement à ce lien entre espérance ou non-espérance et création littéraire dans la période contemporaine. Dans la limite du temps imposé et puis de vos intérêts. Je n'analyserai pas vraiment de texte, mais de faire allusion à de nombreux auteurs, et en particulier à des entretiens d'auteurs, quand les auteurs rendent compte de la valeur relative de leur texte, en quoi est-ce qu'ils ont de l'espérance ou non. Nous étendrons la définition de l'espérance, non pas seulement à l'espérance chrétienne, mais à toutes celles qui donne à ceux qui y croient un horizon invisible. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont de l'espérance. Il y a beaucoup d'autres gens qui reposent, dont la foi, les mêmes vocabulaires, la foi, ils ont confiance dans quelque chose d'autre qui va venir. C'est l'horizon eschatologique, c'est le vocabulaire biblique, mais c'est le royaume de Dieu pour les uns, c'est la société sans classe des marxistes. C'est la société où il y aura égalité homme-femme ou même supériorité des femmes chez les féministes. C'est le progrès des néo-positivistes qui sont rebaptisés depuis récemment en progressistes versus réactionnaires, etc., etc. Tous ceux qui ont des convictions et qui partent d'un système projettent leur système et construisent leur espérance. Donc nous verrons dans un premier temps comment ces espérances peuvent justifier la littérature, qui sera donc là engagé, simple support de thèse qu'il faut répandre. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons combien cette conception est décriée en faveur d'une séparation entre idées d'un côté, on peut espérer croire tout ce qu'on veut, et puis la littérature c'est autre chose. C'est le travail sur la langue et c'est des textes qui sont pour des textes. Ce sont deux approches de conception de la littérature complètement opposées qui existent encore. Et nous terminerons par l'analyse d'une position partagée par nombre d'intellectuels contemporains, la littérature comme dernier refuge, comme fin en elle-même, dans le cadre référentiel, c'est-à-dire l'extérieur, comme la vie intérieure des écrivains. Et ce cadre est désigné comme les mots de désastre et de ruine. Hein. Que reste-t-il? Quelle est la place de la littérature quand il n'y a plus d'espérance, mais que le monde est désastre et ruine? Et puis, je voudrais finir par quelques réflexions sur les attentes et sur la place des chrétiens dans ce monde de la littérature, au sens large. D'abord, il y a des littératures au service de vision. Premièrement, la littérature dite d'édification. L'idée que la littérature, comme fiction, aussi bien que par les autres genres, doit être un outil au service de la propagation de la foi. Ça, c'est une idée ancienne, évidemment, produite par les chrétiens, produite par les églises, du temps où les églises étaient les seuls foyers de culture. Donc, foyer et culture, c'était la même chose. En Europe, à partir du Moyen-Âge, les abbayes étaient les seuls centres de production. Et on considérait que la littérature devait diffuser la Bible, mais devait aussi diffuser la pensée de la Bible, puis de l'Église. Tout doit donc être, toute la création scripturaire, la création intellectuelle, doit être mobilisée pour cette cause prioritaire. Et ça a donné un concept d'art chrétien. L'art au sens. Ça a produit en Occident les premières pièces de théâtre, les mystères sur les seuils de l'Église. Encore maintenant, on fait l'histoire du théâtre. La première étape, ce sont les mystères chrétiens, avec comme sujet la vie des saints, parce que c'était l'Église catholique, ou les textes bibliques. Pratiquement, la poésie, c'est la même chose, l'ensemble du patrimoine de la peinture et de l'architecture. Vous avez comme exemple, en ce moment même, vous avez dans les kiosques un numéro spécial du Figaro intitulé « La Bible », qui présente le texte biblique uniquement illustré par de la peinture ou des sculptures anciennes, médiévales, renaissance. Donc voilà, il faut se réjouir, mais il y a une image un peu... Ça manifeste qu'il y a eu un art chrétien entièrement nourri par la Bible et la musique également, et les réécritures bibliques. Parmi cette vaste production, je retiens l'œuvre la plus aboutie et qui a circulé le plus, je pense, fut le roman allégorique anglais de Pilgrim Progress, les aventures du pèlerin, peu connu en France, mais qui a été écrit au XVIIe siècle, vers 1670, traduit en 200 langues. Et moi, je travaille sur Madagascar, c'est l'œuvre de départ de la littérature malgache. Tout a écrit, autre, bien sûr, la Bible aussi, mais ça a été une fiction qui a nourri et qui nourrit peut-être encore, traduit en 200 langues. Ça veut dire que c'est vraiment, ça a été montré comme c'est ça la littérature quand on est chrétien. Le principe de cette réécriture, c'est, ça repose sur l'allégorie et les références bibliques. Donc dans ce livre, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Chrétien et qui circule et qui rencontre des obstacles et qui doit vaincre, ou bien des gens, il rencontre fidèles, volupté, il passe par la porte étroite. Donc toutes ce sont des références à la Bible, mais c'est pas la Bible, c'est une sorte de petite histoire et qui résout. Chrétien de Troyes a fait la même chose quelques temps après en France. Hein. Donc quelques temps avant, pardon. Ce principe de l'encodage biblique est toujours adopté plus ou moins ouvertement par des écrivains chrétiens, mais très peu en France. Par exemple, bon, toujours dans les littératures du Sud, il y en a beaucoup parce que ce sont des champs littéraires beaucoup plus perméables à une pensée chrétienne qu'en France ou qu'en Occident. En Occident, il reste Le Seigneur des Anneaux, Le Monde de Narnia, tous ces romans qui sont inspirés par des auteurs chrétiens, qui reprennent la pensée biblique, l'espérance biblique à travers les symboles, à travers cette écriture de l'allégorie. En France, on ne voit plus qui, après Peggy, serait qualifié d'auteur important sur le plan de confessant et de dire ouvertement son adhésion à une foi chrétienne qui a été dévalorisée par, je reviens, je ne vais pas faire l'histoire des idées en France, mais bon, c'est depuis 200 ans qu'il y a une très 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 forte opposition. Mais ça ne veut pas dire non plus que dans la littérature contemporaine, elle soit totalement expurgée de la Bible. Il y a un nombre incroyable d'écrivains et nous faisons des colloques entiers, des volumes entiers. Il y a des chercheurs là-dessus tout le temps, où les écrivains qui ne sont pas chrétiens produisent des fictions fondées sur la Bible. Mais non pas pour propager la Bible, mais pour, par exemple, prendre, la contredire, la réécrire, prendre position par rapport à. Or, ça c'est une affirmation mais méthodologique, c'est que quand on proposition par rapport à, même si c'est pour le contrer, on affiche que la Bible est importante. Pourquoi reprendre les chaînes bibliques si ce n'est un aveu que la Bible est importante? Moi, personnellement, je travaille sur l'œuvre de Giono. Giono qui se déclare athée, mais tous ses romans sont absolument saturés d'allusions bibliques, de schèmes bibliques, et toute une prédication ou une contre-prédication de Giono par rapport à la Bible. Donc, mais cependant, il faut bien avouer que l'objectif d'édification, de propagation de la foi, comme on disait dans les œuvres missionnaires de Saint-Vincent de Paul qui est de l'autre côté du boulevard, ça n'est pas parce qu'on est un bon chrétien et qu'on a envie de partager la Bible qu'on devient un bon auteur. Et il y a un grand pourcentage de cette littérature dite d'édification qui est tombée dans la moralisation avec des bons sentiments et qui a fait de la mauvaise littérature avec des bons sentiments. Du coup, ça a disqualifié les bons sentiments, et on dit toujours dans le milieu littéraire, on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments. Parce que, justement, la littérature, c'est d'abord de la littérature, c'est d'abord de la création langagière. Donc il y a des bons chrétiens qui croient correctement, mais qui peuvent faire des très mauvais romans parce que ils sont trop ouverts, trop maladroits, pas de critères propres à la littérature, c'est-à-dire à la création, à la nouveauté, à la fiction, à l'originalité. Je passe maintenant à la littérature dite engagée. Vous voyez, on change de vocabulaire, mais c'est exactement la même chose. C'est pas la littérature d'édification, mais c'est la littérature au service des autres espérances. On appelle ça la littérature engagée ou la littérature de propagande. Par exemple, les romans philosophiques de Voltaire sont des romans de propagande. Sont aux propagandes contre le christianisme, en faveur d'un individu émancipé, en faveur de la raison contre une église complètement ringarde, c'est au service d'une thèse, de son espérance à lui. Son espérance à lui, c'est d'éradiquer l'église. Les marxistes ont été ceux qui ont été le plus loin parce qu'ils ont théorisé le fait que la littérature doit absolument être au service de la bonne parole. Exactement, comme ça, c'est pas la bonne nouvelle, mais c'est la bonne parole pour eux. Et ça a été théorisé par Djanov en 1934. Il y a eu un manifeste du réalisme socialiste qui disait que tout écrivain marxiste doit manifester l'espérance. Il faut que ça soit, que la littérature se finisse toujours bien, quel est cet horizon. Et les affiches de propagande, c'était le soleil levant, on est exactement dans la mythologie ou dans la figuration, dans la symbolique biblique. Il faut combattre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dur parce que à l'horizon, il y a une société sans classe qui sera le paradis de ceux qui auront dépassé la dialectique et qui auront éradiqué l'ordre bourgeois. Beaucoup d'écrivains communistes, enfin tous, c'était la loi, quelques-uns se sont affranchis, tous ont obéi à une écriture qui était à la fois personnelle et qui devait remplir ce cadre, obéir à ces injonctions relayées par Aragon en France, par d'autres présidents du Parti communiste un peu partout dans le monde. Donc quelques écrivains encore connus, qui ont été admirés par les mouvements d'influence, en particulier dans l'éducation nationale. Il y a eu des relais, parce que dans l'éducation nationale, les responsables étaient marxistes pendant très longtemps, et jusqu'à maintenant, ils ont mis dans les livres d'histoire, ils ont fait réciter dans toutes les écoles primaires, des auteurs comme Aimé Césaire, bien sûr, qui vient du Panthéon. C'est un travail de longue haleine qui a eu son couronnement avec son introduction au Panthéon. Mais dans les années 70, les écrivains comme Pablo Neruda, écrivain chilien, et dans toutes les anthologies, le turc Nazım Hikmet, qui est un écrivain intéressant, mais bon, il a été propagé parce qu'il était communiste et parce qu'ils ont de la poésie lyrique facile à apprendre, assez belle, avec du mouvement, de l'énergie, du dynamisme, mais au service. Et ça, ça a été très 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 bien accueilli grâce à ces réseaux. Plus près de nous, tout le courant de la littérature féministe est une littérature qui est au service de cette espérance de voir abattre la domination masculine et voir le sacre de la femme autonome. Voilà, c'est une autre façon. Il y a aussi toutes les productions nationalistes, encore maintenant. Par exemple, une grande partie de la littérature algérienne est une littérature qui a toujours cet horizon d'espérance, mais un horizon nationaliste, anticolonialiste, etc. Cependant, en parallèle, depuis le XIXe siècle, une autre position revendique une mise à distance d'un réel qui serait décevant. Parce que dans toutes ces littératures militantes, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, ça repose sur un optimisme. L'optimisme, c'est que le réel est dépassable, le réel, on peut le transformer, soit par Dieu, soit par soi, soit par le parti, soit par la révolution, peu importe, mais le réel visible, il y a quelque chose derrière de plus grand. Or, en parallèle, il y a tout un mouvement qui ne croit pas du tout dans le pouvoir de transformer ce réel. Le réel est décevant et donc on va valoriser une littérature qu'on appelle autonome. C'est mon deuxième point, l'autonomie de l'art ou la littérature comme lieu et objet d'espérance. Le sociologue marxiste Bourdieu définit ce courant en disant en montrant, et je pense qu'il a raison, ça a été initié par Flaubert et Baudelaire, puis tous les naturalistes. En parlant, c'est Bourdieu qui emploie cette autonomie de l'art. C'est-à-dire que les écrivains sont dégagés des causes, parce qu'ils pensent que les causes, ça ne sert à rien, qu'on ne peut rien faire, et que de toute façon, l'homme est bête, ça c'est Flaubert, l'homme, le monde est sale, on ne peut rien y faire, tout nous dégoûte, et qu'il n'y a aucune espérance pour le réel, il n'y a aucun horizon de dépassement, et donc l'écrivain va se reporter toute son attention sur la forme, sur ce qu'il va faire, lui, sur son texte, sur le langage. Il va se soustraire aux formes sociales, son écriture est travaillée, esthétisée au maximum, et devient une fin en soi. Et c'est pour ça que c'est encore une écriture considérée comme des bijoux. Le bijou est ciselé, mais le bijou n'est au service de rien. Et le bijou ne porte pas en lui-même quelque chose de plus grand que lui. Baudelaire ne fait pas plus, mais il esthétise des choses qui peuvent être condamnables. Par exemple, Baudelaire fait des poèmes considérés comme magnifiques, sur une charogne, un cadavre en train d'être décomposé, sur la prostitution, sur la drogue, etc. Eh bien, l'approche de cette littérature, après Bourdieu, c'est de dire non, l'art est autonome, c'est donc de l'art, ça ne parle pas de la mort, ça ne parle pas du cadavre, ça ne parle pas de la prostitution, donc on l'aborde juste pour son esthétique. Et c'est pour ça que c'est au programme de tous les lycées, Flaubert, la même chose. Flaubert, tous les deux, ils ont été mis en procès de leur temps parce qu'on pensait justement, selon le schéma antérieur, qu'ils portaient une thèse, qu'ils étaient pour la prostitution, pour la drogue, pour l'adultère, pour le suicide. Parce qu'il y a, c'est ça dans leur. Et l'autonomie de l'art, c'est dire ah non. Et c'est un débat qui traverse jusqu'à maintenant toute l'éducation nationale. Parce que pour Baudelaire, la chose est entendue. On considère que ça ne fait pas de mal aux adolescents de lire Baudelaire. Ça ne les fera pas se droguer ou aller chez les prostituées. Marguerita est témoin que cette année, au programme, il y a un roman de Gide, Les faux monnayeurs, dont le personnage est homosexuel. Et il y a tout un débat, c'est une de mes collègues à Metz qui est spécialiste de Gide, qui part dans toute la France entière pour faire un recyclage pour les profs de français. Et il y a un débat, est-ce qu'on fait lire Gide parce que c'est bien écrit? Et d'autres disent, ah mais attendant, c'est parce que c'est le lobby homosexuel qui a mis ça au programme, et moi je ne veux pas relayer le lobby homosexuel et pousser mes étudiants à faire comme le personnage du roman. Donc la littérature, autonome ou pas autonome, ça n'est pas du tout quelque chose qui date de Baudelaire, ça date de 1857, mais c'est toujours très très... Ça touche des sensibilités et aussi il y a des enjeux derrière. Moi, j'ai mon gendre qui est aussi enseignant de français en lycée. Et il avait Emma Bovary et puis je ne sais plus quelle œuvre au programme en première, où l'autre œuvre aussi se termine par le suicide. Et il disait, moi, mes étudiants de 17 ans, qui sont un peu comme ça sur le plan identitaire sexuel, ou qui sont avec les filles anorexiques, ou les tendances au suicide, il dit, moi, j'ai rien à leur proposer, voilà, deux œuvres au programme, dans les deux heures, les personnages se suicident. Alors, la belle théorie de Bourdieu sur l'autonomie de l'art, vous voyez qu'elle a ses limites. Où est l'espérance là-dedans? Évidemment, zéro, sur le plan du message, hein, mais voilà. Donc l'attitude la plus communément admise par la critique, c'est de dire peu importe le contenu moral et spirituel, pourvu que ça soit bien écrit, pourvu qu'il y ait un bon scénario, pourvu qu'il y ait les personnages, et pourvu qu'il y ait du style, c'est-à-dire une langue renouvelée. Pourtant, dans ce schéma, de l'aveu même des écrivains, qui revendiquent être, entre guillemets, sans message, ils y mettent quand même leur vision du monde. Et ces écrivains sans message, Flaubert en est la tête de file, eh bien, Flaubert, c'était quelqu'un de profondément désespéré. Et son absence d'espérance, elle est dans son texte. Alors, il se dégage, non, moi, je ne parle pas d'espérance, je ne parle de rien, je suis dégagé, c'est juste la littérature. Mais non, en fait, ce texte propage une absence d'espérance. Et l'absence d'espérance, ben, ça s'appelle le désespoir. Mais il ne dira jamais que son œuvre n'est pas au service du désespoir, mais son œuvre, qui est ouvertement sans message, elle est entièrement nourrie par son absence d'espérance. Et ça, il faut le montrer. Mais ça, ce n'est pas montré quand on met en priorité l'esthétique. Certains personnages, bon, c'est le même démonstration, peut être faite pour le choix des personnages. On peut tout à fait dire qu'il met un personnage homosexuel, ah, c'est par hasard, c'est pas grave, c'est qu'un personnage dans le roman. Oui, mais que devient ce personnage? Est-ce qu'il est valorisé, pas valorisé, ou au contraire, normalisé? Une approche purement esthétique vous dira, c'est pas grave, on fait lire Gide parce que c'est un grand auteur. Mais en réalité, il y a à l'intérieur du texte des prises de position qui ne sont pas données comme des prises de position, mais qui viennent simplement des choix de personnages, de la nature des personnages. Donc en réalité, cette posture, si elle est bénéfique pour l'apport esthétique, masque la plupart du temps une crise profonde et personnelle des auteurs. Sans conviction, sans espérance, ces écrivains écrivent sur leur questionnement ouvert et en réalité, par ces fictions, ils manifestent leur embarras, leur absence de réponse. Cette absence de message, revendiquée comme une liberté, masque un état, celui de la perte d'espérance. Dans notre contexte, c'est bien reçu, parce que ce qui est le plus partagé par les intellectuels, et donc par les instances de légitimation, les instances de légitimation, ce sont ceux qui disent que oui, cette œuvre est bien, oui, il faut la mettre au programme, ce sont les éditeurs, ce sont les critiques littéraires, et ce sont les gens du ministère de l'Intérieur, les inspecteurs généraux, qui mettent les œuvres au programme. Et vous verrez, je vous défie de trouver au programme un écrivain chrétien ou un écrivain qui a de l'espérance. Ça ne se fait pas. Les instances légitimantes choisissent. Et donc, nous sommes victimes. Il y a eu des écrivains, et il y en a encore, qui sont chrétiens, seulement ils ne sont pas publiés. Et quand ils sont publiés, ils ne sont pas mis en valeur parce qu'il y a un tri. Et parce que nous... Mais bon... C'est une réalité sociale. Dans les autres pays, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle l'organisation du champ littéraire. Cette admiration, voire la sacralisation de l'écriture, est le signe d'un déplacement de la sacralité. Cette sacralité perdue, sacralité de l'Évangile ou de la cause avec un grand C, elle est perdue dans un repli qui est effectué par défaut. Et là, je m'appuie sur un certain nombre d'entretiens, jusqu'à tout récemment à la radio et dans les journaux. Quelques exemples. Antonio Tabucchi, un romancier italien, qui se qualifie lui-même de marionnette de la vie. Il avoue dans la même phrase, je ne crois pas à la transcendance. Et dans la même phrase, il dit que la littérature, pour lui, est un absolu de poche. Oui. Donc, cette transcendance qu'il a perdue, eh bien, finalement, il l'a redirigée vers la littérature. La même position est adoptée par Jean d'Ormesson, grand vieillard et grand qui est lu par tout le monde, grande vedette de nos médias. Il avoue que la littérature est avant tout un plaisir. Donc, vous voyez, premier aveu, c'est rien, c'est juste pour s'amuser. Vous voyez, il est cabotin, il est drôle, il est lu par les femmes, voilà. Mais en même temps, il ajoute qu'il est habité par une, je cite, tristesse gaie. G-A-I-E. Une tristesse gaie. Donc, c'est l'humour, la légèreté, mais sur fond de tristesse. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui le dit, il est taraudé par la seule question qui vaille, mais à laquelle il n'a pas de réponse, celle de l'existence de Dieu. Et comme il n'a pas de réponse à cette seule question, il avoue dans cet entretien, je cite, « Oui, mon Dieu est la littérature. Je ne trouve pas dans le vrai Dieu, donc je me replie. » Et le dernier exemple que j'ai trouvé après avoir rédigé, c'est Kamel Daoud, un romancier algérien, qui est aussi travaillé par tout le religieux en général, et qui dit « Comment construire de l'absolu sur ce qui n'est que trébuchement ?» Donc il écrit, pour construire de l'absolu. L'absolu n'est plus ailleurs. L'écriture n'est plus au service de l'absolu, mais l'écriture est le seul espace où on peut reconstruire soi-même l'absolu de poche. C'est la mise en scène de la crise. Innombrables sont les écrivains de référence qui ont mis en scène ou théorisé cette situation de désespoir. Les deux plus importants, qui sont deux théoriciens, qui sont la pierre angulaire de la critique littéraire, encore maintenant, sont Cioran et Blanchot. Cioran, mort en 1995, un Roumain francophone qui a vécu à Paris après la Roumanie. Il a publié, je commente pas son œuvre, mais avec les titres, vous verrez déjà, sa première œuvre s'appelle « Sur les cimes du désespoir », tout un programme, et sa dernière œuvre est « De l'inconvénient d'être né ». Et voilà la référence en matière de littérature. Et quelqu'un qui a pensé, il y a 30 ans, 33 à 73, 40 ans entre les deux, 40 ans pendant lesquels il n'a fait que penser au suicide. Voilà les théoriciens de référence. Deuxième, Maurice Blanchot, très très à la mode parmi les universitaires, tout le monde, tout le temps cité, qui est mort en 2003, et qui a écrit en 1980 son œuvre qui est de référence, et puis un deuxième que je citerai tout à l'heure, s'appelle « L'écriture du désastre ». L'écriture du désastre, c'est un terme qui est repris par d'autres, tout un tas d'écrivains. Celui que je connais le mieux, c'est un malgache qui s'appelle Rahman Anna, et qui tout le temps se réfère à Blanchot, l'écriture du désastre, qui reprend ce terme comme un mot programmatique. Comment c'est la réalité aujourd'hui? C'est le désastre. Et donc, on va écrire sur le désastre. Mais on va écrire très bien, très beau. L'esthétique du désastre, c'est le top. C'est ce qui est, ça devient la référence littéraire. Et son deuxième essai, qui fait partie du panel théorique des universitaires, s'appelle « L'espace littéraire ». Il développe l'idée que l'écrivain, comme chaque homme, l'écrivain n'est qu'un homme comme tous les autres, il est dans une situation de solitude, entre guillemets, essentielle. Donc c'est l'essence même de l'individu, l'homme sur terre est absolument dans une solitude. Et donc, l'écrivain, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il a de spécial? Je cite, « L'écrivain est alors celui qui écrit pour pouvoir mourir. Et il est celui qui tient son pouvoir d'écrire d'une relation anticipée avec la mort. Voilà deux écrivains qui sont les références. Voyez. Cette écriture du désespoir, synonyme de non-sens, a ses caractéristiques qui sont celles de la littérature postmoderne, données comme novatrice, comme un modèle, comme synonyme de quelque chose d'émancipé des systèmes. Hein. En particulier de tous ceux qui ont été déçus par les systèmes, que ce soit la religion ou le marxisme, parce qu'en ce moment, on est en position post-marxiste. C'est Raymond Federman, un juif français devenu américain, mort en 2009, mais qui a théorisé dans un essai cette postmodernité depuis 1973. Mais ceux que je viens de citer sont exactement de la même mouvance. Et lui, il propose une position de la littérature, puisque le monde n'offre que des déceptions, puisque l'on ne peut faire confiance à personne, ni à Dieu, ni aux hommes, ni au système politique, puisque la réalité lui dit pas désastre, il dit un fiasco, c'est son mot, il ne reste que l'écriture. Donc là, voilà de nouveau l'écriture comme ultime refuge, ultime norme, ultime espérance. Je le cite, « Écrire, c'est donc produire du sens. » Et il écrit « produire » en majuscule. « De manière déconnectée du réel, pour devenir, je le cite, un art autonome de plein droit. » C'est l'art qui est le lieu, et c'est parce que c'est de l'art qu'on peut avoir cette espérance, ce sens. Mais le sens est un non-sens. Hein. En l'absence de sens, le seul sens qui reste, c'est cette écriture. Le langage, alors, s'en trouve hyper valorisé. Donc, c'est le langage qu'on regarde. Le langage, en linguistique, hein, le langage n'est qu'un outil pour dire quelque chose qui dépasse le langage. Hein. Le mot amour n'a aucun intérêt s'il n'y a pas du vrai amour derrière. Or, pour tous ces gens-là, puisqu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas d'espérance, le mot devient la construction. Donc la littérature, ça sera une construction langagière, esthétique, humoristique, mais qui ne renvoie pas à des choses, à des signifiés. Elle ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même, dans un processus de dérision. Alors la seule chose qui reste, c'est l'humour. Et de toute façon, Federman le dit bien, c'est très très amusant. C'est quelqu'un, voilà, il est au sommet du désespoir. Vous lisez ses livres, c'est vous riez de la première à la dernière page. Parce qu'il tourne tout, il n'y a plus que ça, il chamboule tout, il rit de lui-même et des autres. La littérature est qualifiée, je cite Federman, de « acte de survie ». Parce que la condition du roman, c'est d'être pathétique. C'est donc d'une manière paradoxale que plus les écrivains sont désespérés, plus ils redéploient leur énergie au service d'une écriture du refuge, qui ne proclame plus rien, qui ne va plus au-delà d'elle-même. Sur le ton du tragique ou sur celui de la dérision, cette écriture de la désespérance peut être celle du fragment, du jeu, J-E-U, ou encore de la fantaisie débridée. Amusons-nous, puisqu'on est au bord du gouffre. Et au moins, on a encore ça. Alors, quelle place donner à la littérature dans tout ça? Je voudrais voir un peu cette autonomie factice et du danger qui en résulte. Dans l'état actuel du champ littéraire occidental, avec ces figures tutélaires du désespoir, il est très difficile d'avoir une écriture remplie de l'espérance. Parce que ce sont ces figures qui dominent. C'est cette esthétique du fragment qui est hyper valorisée par les instances légitimantes qui elles-mêmes sont le fruit d'une société et qui elles-mêmes sont construites sur des valeurs qui sont des non-valeurs. Éric Emmanuel Schmitt, qui est un écrivain prolifique, qu'on peut considérer comme léger, mais qui ne l'est pas tant que ça, a témoigné dans la mission de la Grande Librairie au mois de février. Il a dit « Mais moi, je suis critiqué par mes collègues parce que j'écris pour que les choses aillent mieux. » Et on me dit « Mais t'es fou, les choses qui vont mieux, mais ça ne se fait pas d'écrire avec eux. » Alors que c'est pas un écrivain qui a un grand message d'espérance. Mais il est quand même humaniste, il écrit des choses qui sont constructives. Il dit, mais je tranche et on me critique. Il dit, mais c'est pas grave, ça sera un combat de plus de pouvoir écrire sur autre chose que le désespoir. Voilà, c'est un défi pour lui de résister au désespoir. Ça donne une idée de l'état du champ littéraire intellectuel en ce moment. Pourtant, ce détachement fin des écrivains désespérés, à mon avis, porte en lui-même une valeur non négligeable, qui est la vitalité contenue dans la créativité. Le jeu de la langue, l'imagination, le désir d'écrire sont, en dépit de leurs allégations, et c'est là qu'ils se contredisent, hein, sans le savoir, sont les signes de leur attachement à la vie, dans ce qu'elle a de plus dynamique. Mais ils ne le savent pas. Ils avouent leur désespérance, leur désespoir. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils n'écriraient plus et ils se suicideraient demain. Donc, Sioran a mis 40 ans à ne pas le faire, et les uns et les autres continuent à créer des belles choses. C'est la preuve qu'ils ont ce que Freud appellerait une pulsion de vie. Moi, ce que j'appelle une dynamique et un attachement à la vie. Donc, si l'espérance eschatologique et transcendantale a disparu, elle s'est déplacée pour aboutir à ce que j'appelle, pour emprunter un terme à un historien, puisque nous avons des historiens parmi nous, François Hartzog, qui appelle ça le présentisme en histoire. C'est-à-dire, le présentisme, c'est qu'on ne regarde plus devant, puisqu'il n'y a plus rien à regarder, ou que les choses à regarder font peur, on regarde ce qui est dans l'immédiat. En littérature, c'est la même chose. Un présentisme littéraire, c'est dire, bon, on s'occupe plus de rien et on fait un beau texte où on met tout ce qu'on veut, mais au moins on s'attache au jeu de langage et le texte pour le texte, qui ne porte plus rien. Ne nous y trompons pas, cette production diffuse, soi-disant qui ne s'occupe de rien, en réalité, instille un message, mais un message de désespoir. Et ce message de désespoir, sans qu'ils le veuillent ou sans qu'ils en soient conscients peut-être, devient un désespoir normalisé. Et c'est ça qui me semble très très dangereux. Cette littérature est la norme, c'est ça être un bon intellectuel, c'est être désespéré, c'est ça penser juste et sans s'en apercevoir. Ils font ça au nom d'eux-mêmes. Mais petit à petit, ils instillent une nouvelle norme de la culture. La culture occidentale, c'est une culture du désespoir. Et c'est ainsi que l'impétueux hédoniste Frédéric Becbédé, que vous connaissez le nom, très à la mode, intellectuel branché parisien, qui s'amuse, qui a l'air de s'amuser, qui gagne beaucoup d'argent, qui s'éclate, et qui a fait un certain nombre d'entretiens que j'ai cités, il admire un écrivain, Albert Kosri, qui est un Égyptien. Albert Kosri qui dit « Moi, je crois en rien. Tous mes personnages sont désespérés. » Et Becbédé dit « Les aventures de ces parasites, ces personnages sont des parasites, n'ont guère de sens, comme la vie. » Et au lieu de dire « Oh là là, ce pauvre Kosri, il est complètement désespéré », il l'admire en disant « Waouh, super, ce vieux romancier qui écrit en mettant des personnages qui n'ont pas de sens ». Et il conclut son entretien « J'ai l'impression d'être face à un scribe sage ». Donc la sagesse d'aujourd'hui, c'est de produire du non-sens. Alors, quelle réaction attendre ou craindre quand la littérature est devenue ça? La réaction, il me semble, ça c'est mon analyse, est sous nos yeux. Personne ne peut se satisfaire autrement qu'en façade d'une telle décomposition aboutissant au vide. Cette décomposition fut-elle belle, fut-elle humoristique? Ceux qui ne croient en rien, en réalité, croient en quelque chose, croient en vie au vide, croient au désespoir. Ceux qui ne croient en rien, en réalité, basculent dans d'autres croyances, qui ne prennent pas toujours des formes religieuses, au sens chrétien, mais qui remplacent l'espérance perdue. Aucun homme ne peut vivre sans s'attacher à quoi que ce soit. Et ces gens qui sont dans le vide, eh bien, s'ils n'apportent rien, en réalité, ils ouvrent des chemins pour d'autres choses. Le retour du religieux, qui semble étonner tous ceux qui croyaient que le progrès, la science, la raison, la gauche, la démocratie, tout ça, ça va amener le bonheur en éradiquant la religion. C'est théorisé par un livre qui vient de sortir sous la direction de Blanchard, hein, qui s'appelle « Vers la guerre des identités, de la fracture coloniale à la révolution ultranationale ». Il vient de sortir ce livre et, pour lutter contre le Front National. Mais en même temps, c'est un aveu que nous avons essayé d'éradiquer la religion. Tiens, mince, alors, on n'a pas réussi. Et comment ça se fait que notre progrès, progrès social par une démocratie à religieuse, eh bien, l'aboutissement, c'est l'inverse. On arrive à un Front National, à une révolution nationale, à des retours au nationalisme, à des retours à des Français qui se convertissent à l'islam, à tout ce qu'on avait cru combattre efficacement. À les formes les plus rampantes de ce mal-être, de ces réactions à ce combat et à ce désespoir et à ce vide, sont aussi bien des formes radicales, politiques, religieuses, que toutes les formes de recherche ésotérique, alors qui sont super à la mode. On dit qu'on est dans un monde sécularisé, je ne suis pas du tout d'accord, on est dans un monde hyper religieux, mais pas chrétien. On réinvente des nouvelles religions. Tous les cabinets de bien-être sont fondés sur du religieux. Les ondes, la chromothérapie, les odeurs, enfin tout ce qu'il y a dans les magasins nature et découverte, tout les théories, ça fait florès, hein. Il y a toutes sortes de petits colifichets et tout marche. Les gens viennent parce qu'ils croient en tout, tout d'un coup ils croient en tout. Ces gens qui sont soi-disant non religieux, vous leur dites que je connais quelqu'un qui fait de la chromothérapie. Les gens vont mal, sont déprimés, elle leur dit « mais c'est pas grave, il faut changer la couleur de vos rideaux ». Les gens le croient et c'est 45 euros la séance. Ces gens qui soi-disant ne croient à rien, ils croient à n'importe quoi. Donc c'est une hyper-religiosité parce que, à mon avis, c'est en partie à cause de ces intellectuels et de cette littérature qui a sapé tous les horizons, qui a coupé tous les horizons d'espérance. Les discours politiques ont bien compris que le peuple, et vous allez trouver où est ma citation, ressemble à un troupeau sans berger. Et un troupeau sans berger, deuxième citation, qui est fatigué et découragé, bien, qu'est-ce qui fait un troupeau sans berger qui est fatigué? Eh bien, il court après n'importe quel berger. Et nous en avons tous les soirs à la télé la démonstration. N'importe qui se présente comme berger peut être cru, quoi qu'il dise. Il faut qu'il parle bien, qu'il soit fort et qu'il apporte de l'espérance. Et c'est vendu tout de suite. Même le loup déguisé en sage. Si la littérature a failli à donner cet horizon lointain qui permet de supporter le présent, dans la paix, comment donner tort à ce peuple découragé qui ne croit plus en rien? Et j'en arrive à ma dernière partie, mais quelle place ont les porteurs d'espérance? Est-ce qu'il reste des chrétiens dans la salle? Est-ce qu'il reste des chrétiens dans le milieu littéraire? Est-ce qu'il reste des gens pour remettre de l'espérance dans ce monde des idées? Puisque c'est le monde des idées, je suis désolée pour les scientifiques, mais c'est le monde des idées qui dirige la société, qui impulse ces horizons ou ces absences d'horizons. Et c'est à l'intérieur de cela qu'il faut, à mon avis, s'investir. Donc faut-il reproduire de la littérature chrétienne? Où être? Où se placer? J'ai pas de réponse complète, hein. C'est mon chemin de toute ma vie, c'est le chemin d'autres qui vont trouver d'autres réponses. Donc je dirais globalement oui, mais avec la prudence et la sagesse qu'imposent les codes de notre société. Il s'agit plus de faire un roman du pèlerin et de dire Jésus est le chemin, il donne de l'espérance dans un petit roman qui sera... Non, ça ne marchera jamais, les éditeurs vont couper, et c'est pas comme ça qu'on passe à la grande librairie. Par contre, il y a un certain nombre d'intellectuels qui instillent dans leur travail l'espérance qu'ils ont eue de leur foi. Alors, il n'y a pas que l'espérance, il y a la lucidité, il y a l'honnêteté, il y a le dynamisme. Donc, quelques sous-champs littéraires qui constituent cette création, ce milieu. Bien sûr, il y a le sous-champ des milieux chrétiens, mais ça continue et ça continuera, et ça, je n'en parle pas parce que c'est complètement à part. Parce que je pense que si le contexte dénigre le discours, dénigre les valeurs chrétiennes, c'est d'une part parce qu'il y a eu tous ces messages de désespoir, mais c'est aussi parce que le contenu même du message chrétien a été perdu ou dévalorisé parce que qui n'est plus compris. Ce monde attend des réponses. Et quelques pistes, donc c'est le premier secteur à reconstruire serait peut-être la littérature jeunesse. La littérature jeunesse est dynamique, a beaucoup de lecteurs, il faut en profiter pour y faire circuler des visions d'espérance, mais la vraie espérance. Et c'est très triste de voir une maison d'édition comme Bayard, qui a soi-disant des racines chrétiennes, qui est soi-disant catholique, et dans son magazine « J'aime lire », par exemple, il y a des petits romans, c'est 6, c'est 7 à 12, 11 ans, très très lus. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes qui parodient la Bible, qui sont sur les sorcières, sur le diable, sur Satan, tout le temps, tout le temps. Mais pour dire que ça n'existe pas. Tout ça est blablabla, c'est ridicule, les sorcières, ah, on rigole, le diable, c'est toujours caricaturé, ça n'existe pas, etc. Donc, il y a des intertextualités bibliques, mais pour nier. Et on s'étonnera après que les enfants ne croient pas. On leur instille ça depuis l'âge de 7 ans. Donc il y a de la place, il y a des cadres, il y a aussi des éditeurs chrétiens, hein, pas des éditeurs, mais des textes inspirés par la Bible. Mais le deuxième secteur, qui est le mien, c'est la critique littéraire. La critique littéraire où il est nécessaire, à mon avis, d'avoir des analystes qui mettent à jour les réseaux sous-jacents, l'intertextualité biblique et les positions spirituelles des auteurs. Parce que les auteurs qui se prétendent non-croyants, qui écrivent des textes qui n'ont rien à voir avec la foi, en réalité, comme je l'ai dit dans la première partie, ils mettent dans leurs textes, mais de manière diffuse, symbolique, des positions spirituelles. Et c'est le travail des critiques de montrer quelles sont ces positions spirituelles, quelles qu'elles soient, même quand elles sont anti-chrétiennes. Et souvent, il y a beaucoup de références à la Bible, et c'est une occasion très fréquente de remettre, de réexpliquer quel est le message chrétien. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible ? En quoi est-ce que cet auteur reprend la Bible et s'en écarte ? Et en s'en écartant, évidemment, on est en train d'expliquer ce qu'il y a dans la Bible. Donc ça, c'est un travail que je fais très souvent avec mes étudiants ou dans des articles, parce qu'il y a des colloques sur tout ça. Nous avons par exemple à Metz, on a eu des journées de recherche qui s'appellent « La Bible de un tel », « La Bible de Colerdo de Laclos », »,« La Bible de Gide », »,« La Bible de ceci ». Donc on fait venir des chercheurs du monde entier, spécialistes de cet auteur, et on travaille la relation de cet auteur à la Bible. Donc forcément, on est obligé de mettre en évidence le message de la Bible, pour montrer... Donc ça c'est le petit message d'espoir, c'est que dans le monde universitaire, il y a beaucoup de réseaux qui se mettent en place. Il y aura un exemple, il y aura à la Sorbonne l'année prochaine, j'ai oublié la date, un colloque sur Luther, les apports de Luther dans la littérature. Évidemment c'est hors réseau chrétien, mais les écrivains, la place est libre, hein. Tous les universitaires peuvent postuler et démontrer le rapport Luther à la Bible, et je ne compte pas me gêner pour le faire. Il y a des réseaux, j'ai été invitée cette année à Clermont-Ferrand, où il y avait tout un cycle de recherche sur la connaissance. La connaissance et les dangers de la connaissance. Alors c'était dirigé par une prof de latin, mais il y a eu une journée sur la connaissance dans la Bible. Il y avait plein de gens qui ont fait des thèses sur des personnages bibliques, et moi j'ai fait quelque chose sur la Genèse, c'était une étude biblique, purement et simplement, complètement, je veux dire, de manière pas marquée. On ne dit jamais qu'on croit, mais quand on explique clairement la Bible, sans dire à la fin « convertissez-vous », mais on explique clairement la Bible et c'est tout. Mais je pense que ça suffit. Je pense que c'est l'espace dont nous disposons. L'université est un cadre laïque, mais c'est un cadre extrêmement libre quand on est rigoureux. Il y a beaucoup de place pour un travail rigoureux et fouillé. Quelques autres exemples. Donc, il n'y a pas que nous. À Metz aussi, on a des réseaux, des séminaires de doctorants qui sont tous basés sur des notions bibliques. Pendant 3 ans, on travaille sur Exode, Exil. En ce moment, on a travaillé sur les prophéties. Les prophètes, donc évidemment un prophète ça peut être n'importe tout, mais dans ces cycles, il y a toujours des choses sur la Bible. Il y a d'autres intellectuels, et je voulais vous citer Jacques Julliard, parce que Jacques Julliard est un journaliste de gauche, mais qui a publié un livre qui s'appelle « Le choix de Pascal », qui a été publié en 2003, qui n'a jamais fait l'objet de recension, en tout cas qui est passé complètement inaperçu, et que je viens de découvrir parce qu'il a été invité dans une émission de Finkielkraut. Il démontre exactement, à partir de Pascal, il fait toute une analyse de la politique française et de la politique pédagogique de l'école. Juste une petite citation. « La gauche ne croit pas au péché originel et à l'homme innocent. La droite ne croit pas en la rédemption. » Et donc, à partir de ces notions, il redéfinit, dit, mais il faut retravailler, refonder tout sur la base que l'homme est mauvais, première étape. Deuxième étape, l'homme mauvais, par la grâce de Dieu, peut échapper à ce péché originel. C'est son message à lui, journaliste socialiste. Donc, mais alors, pourquoi il l'a dit, c'est une grande source d'espérance, mais vous l'avez vu dans les journaux, ça ? Voilà, c'est comme ça. Quand quelqu'un a une pensée fondée sur la Bible et qu'il redécouvre des choses qui remettent en question la philosophie héritée de la frange de la France qui a toujours lutté contre la religion, on n'en fait pas écho. Enfin, bien sûr, le champ littéraire est un espace où il y a de la place pour des auteurs. Et ça, moi, je ne suis pas auteur, mais j'aspire à ce qu'il y ait des romanciers, des écrivains, des poètes, des dramaturges qui mettent cette espérance chrétienne. Pour l'instant, je n'en connais qu'une. C'est la poète belge Colette Nys-Mazur, qui est une poète très connue en Belgique, qui a une très grande œuvre et qui est ouvertement chrétienne. Mais évidemment, elle n'est pas là à faire des prédications. Elle met ça dans de la poésie et c'est ceux qui décryptent sa poésie qui voient son message. Je conclus en disant que ce monde de la littérature, ça est un champ littéraire. Cette espérance chrétienne demeure, mais que, à mon avis, il faut qu'il y ait des chrétiens qui y soient. Jésus, face à la foule en quête de sens, dont j'ai cité tout à l'heure quelques extraits, Jésus se met à enseigner, c'est-à-dire qu'il prend sa part, mais il ajoute à destination de ses disciples, dont nous sommes, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire, que les ouvriers, c'est toujours les autres, mais un jour ou l'autre, c'est nous. » Voilà, donc la moisson dans la littérature, elle est là, il faut des gens. Je vous remercie.